Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau rendez-vous économique avec le Cercle Turgot et en particulier avec son vice-président Nicolas Bouzou, mon vice-président. Bonjour Nicolas.
Bonjour Jean-Louis.
Voilà. Alors un homme plein de talent puisque vous êtes à la fois président d'Asterest, économiste, auteur et chroniqueur de grand talent.
Merci, c'est
donc
gentil.
On est très heureux de vous recevoir.
Plaisir partagé.
D'accord. Alors, cet été a été particulièrement chaud, pas simplement en raison de la chaleur estivale, mais les marchés ont complètement dérapé, si bien les marchés boursiers que les marchés de la dette, etc. Donc, l'inquiétude s'est amplifiée et tout ceci étant accompagné par la mise en place de plans dits de redressement pour les finances publiques et l'endettement quasi généralisé, mais aussi quasi indigeste par l'ensemble des sociétés concernées par ces mesures. Alors, la grande question, qui celle-là on va l'évacuer assez vite, mais qui quand même se pose, de quoi s'agit-il ? S'agit-il d'austérité ou de rigueur ? Alors on a l'impression que les politiques sont partagées entre le désir de montrer quel est le sens de leur action, et puis celle aussi d'avoir l'effet boomerang par rapport aux échéances électorales. Cacher cette rigueur qu'on ne saurait voir, en quelque sorte. On pourrait en sourire, mais il s'agit de l'avenir de l'Europe et du pays. Alors, selon vous, de quoi s'agit-il ? Et surtout, derrière la sémantique, est-ce que les plans tels qu'ils sont aujourd'hui connus, par rapport à ce que l'on voit en perspective, notamment sur l'absence de croissance, pour ne pas dire autre chose, pas parler de décroissance, est-ce que ces plans sont susceptibles d'avoir une efficacité à la hauteur des enjeux ? Voilà la première question.
Alors, de quoi s'agit-il ? Essentiellement d'une crise de surendettement. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des pays développés qui, en raison de la crise, mais pas seulement, se retrouvent avec des dettes publiques qui sont absolument colossales. Alors, je dis pas seulement en raison de la crise, dans la mesure où finalement, c'est le coût de nos États qui est remis en cause. On a des États qui sont très, très coûteux, qui accumulent des dettes depuis longtemps. Et si on veut donner des chiffres, on peut considérer que ce que je dis vaut à peu près pour l'ensemble des États développés. Hein. Les deux tiers de la dette viennent de la mauvaise gestion et un tiers de la dette vient de la crise donc de 2007-2008. Bon, le résultat de tout ça, c'est que vous avez des États qui sont en situation, pourrait-on dire, de surendettement. Et le surendettement est quelque chose, je veux dire, qui peut se régler quand on a des revenus, quand on a des perspectives de revenus.
Comme
ce qui est
ménage.
Très nouveau. Voilà,
comme un ménage.
Exactement. Ce qui est nouveau depuis cet été, c'est l'affaiblissement de la croissance économique. Et donc là, on se retrouve avec des pays développés qui, à la fois, ont une dette publique très importante, mais qui en plus n'ont pas de croissance économique, c'est-à-dire n'ont pas de recettes fiscales supplémentaires. Alors ce que je dis, je parle des pays développés, il y a quelques exceptions, bien évidemment, l'Autriche, les Pays-Bas, l'Allemagne, etc., quelques pays scandinaves, mais en réalité, ça vaut aussi bien pour le Japon que pour la plupart des pays de la zone euro, que pour les Royaumes-Unis, et on l'a vu cet été, que pour les États-Unis, puisque la note des États-Unis a été dégradée.
Alors, l'Allemagne qui ralentit beaucoup.
Voilà, c'est ça. Alors l'Allemagne n'a pour l'instant pas de problème de dette, enfin en tout cas des déficits publics qui sont faibles, mais en effet, connaît un ralentissement brutal de sa croissance économique, comme la France d'ailleurs. Alors, à partir de là, évidemment, les craintes des marchés, c'est-à-dire des investisseurs, de nos créanciers, finalement, se focalisent sur la difficulté potentielle de remboursement de dettes que pourraient connaître ces États. Alors, tous les États ne sont pas logés à la même enseigne. Hein. Il est clair que la France n'est pas dans la situation de la Grèce. Mais enfin, ce qui était nouveau avec la Grèce, c'est l'idée, finalement, selon laquelle on peut avoir un État développé qui fait défaut sur une partie de sa dette. Ça aussi, je crois que c'est vraiment la grande nouveauté de cet été. Bon, on le savait avant l'été, et d'ailleurs, les parlementaires grecs viennent de le confirmer, la dette grecque, elle est incontrôlable. Ce qui est vrai, l'arithmétique de la dette publique est relativement simple. Vous pouvez rembourser la dette publique à partir du moment où les taux d'intérêt sont inférieurs à la croissance. En Grèce, vous avez une croissance, une récession de l'ordre de 5% et vous avez des taux d'intérêt. Alors si la Grèce va sur les marchés financiers, elle s'endette à 15% et si elle s'endette auprès du Fonds de soutien européen, elle s'endette à 5%. Donc de toute façon,
ça passe pas.
Voilà, sa dette est incontrôlable et donc on fait face aujourd'hui à ces difficultés, enfin qui sont quand même des difficultés extrêmement lourdes.
Alors on peut effectivement verser des larmes de crocodile sur cette situation. Mais de toute façon, on y est.
Absolument.
Et on y est, je parle bien entendu, de l'État français et des États européens. Et donc, comme le disait l'autre vice-président du Cercle Turgot récemment sur une autre antenne, il est évident que sauver la Grèce, c'est aussi se sauver.
Bien évidemment, il s'agit de Philippe Dessertine, il a évidemment complètement raison. Finalement, un pays comme la France aujourd'hui fait face à à deux contraintes. D'une part, sauver la zone euro. C'est-à-dire, en effet, Philippe Dessertine a tout à fait raison, ne pas laisser tomber la Grèce. Parce que le discours qui consiste à dire... Alors, il y a deux discours par rapport à la Grèce. Deux discours un peu faciles qui consistent à dire « faut laisser l'État grec faire faillite ». Bon, sauf qu'il y a des créanciers. Et le problème aujourd'hui de la dette grecque, c'est le problème des Grecs, certes, mais c'est aussi le problème des créanciers de la Grèce, c'est-à-dire les banques, les compagnies d'assurance, etc. Donc, on ne peut pas laisser la Grèce faire faillite. La deuxième solution un peu facile consiste à dire « il faut laisser la Grèce sortir de la zone euro ». Bon. Là, c'est la boîte de Pandore des pays qui sortent de la zone euro. On a construit une zone euro pour éviter d'avoir à nos portes des pays qui dévaluent. Si on les laisse sortir, ça n'a plus Absolument. Aucun intérêt. Donc, il faut bien évidemment conserver la Grèce dans la zone euro, c'est-à-dire qu'il faut, au fond, davantage de solidarité européenne. Les dirigeants en sont conscients, la difficulté les tient peuples. Aux opinions publiques, évidemment. aux peuples, aux opinions publiques, qui sont assez peu fédéralistes. Et à la limite, on peut le comprendre. Prenez l'opinion publique allemande, par exemple. Les Allemands ont fait des réformes importantes depuis le début des années 2000. Ils ont diminué les indemnisations chômage, diminué les dépenses de santé. Ils partent en retraite à 68 ans. Et aujourd'hui, il est difficile de leur faire comprendre qu'ils ont fait tout ça, c'est formidable, ça va pouvoir servir à la Grèce. Donc, il y a des vraies difficultés par rapport à ça. La deuxième contrainte auxquelles fait face un pays comme la France, c'est sa propre dette. C'est-à-dire qu'il ne faut évidemment pas que nous nous retrouvions dans la situation de la Grèce. Et ça, bah, c'est toute la question des plans d'austérité. Hein. Vous en parlez en introduction, aujourd'hui, plan d'austérité, plan de rigueur, appelons ça comme on veut. Ouais, ouais. On s'appelle ça plan d'assainissement pour être un peu plus positif, mais de toute façon, on n'a pas le choix.
Alors justement, parlons du plan français, puisqu'en fait, c'est un problème européen, mais c'est aussi une logique d'auberge espagnole. Et chacun trouvera dans ces fameux États... dans la collectivité et les résultats européens, ce que lui-même aura apporté. Donc il faut bien comprendre que chaque pays doit d'abord balayer devant sa porte avant de lancer des injonctions en direction de ses confrères. Alors, bon, le plan français, donc en gros 11 milliards, on ne va pas assommer nos auditeurs avec les chiffres. Bon, alors 11 milliards pour un particulier, c'est une somme colossale, mais quand on parle de 1 600 milliards de dettes, ou de plus de 2 000 milliards de PIB, on s'aperçoit que ce n'est quand même pas quelque Non. chose de colossal. Surtout que c'est sur 2 ans en plus. Hein.
C'est à cheval. Ah,
à cheval, c'est à cheval. Alors, ce qui m'a surpris personnellement, et là je voudrais avoir votre réaction sur le sujet, c'est qu'en fait, ce plan vise pour l'essentiel plutôt des augmentations de recettes que des dépenses. Or, alors que la problématique, enfin je crois que c'est évident pour tout le monde, c'est d'abord celle de la dépense et de la sphère publique. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire ?
La même chose que vous.
nous sommes d'accord.
Nous sommes entièrement d'accord. Et à mon avis, c'est ce qui pêche dans ce plan. Alors déjà, quand même, sur les ordres de grandeur, même si en effet, il ne faut pas assommer nos auditeurs avec les chiffres, mais 10 milliards ou 11 milliards, ce n'est pas beaucoup. Moi, mes calculs montrent qu'il faut faire entre 2 et 3 fois plus. C'est-à-dire qu'il faudrait réduire le déficit public de l'ordre de 20, 25, allez, 30 milliards d'euros tous les ans, si on veut notamment conserver notre fameux triple A. Donc 10 milliards d'euros, c'est pas beaucoup. Et en effet, le plan français a une spécificité, c'est qu'il se fait exclusivement par des hausses d'impôts. Et il ne se fait pas par la baisse de la dépense publique. Et ça, je veux dire, les chiffres sont cruels, mais la dépense publique n'a pas baissé d'un euro depuis 5, 10, 30 ou 8, 30 ans. Pas baissé d'un euro. Donc il faut arrêter avec ça, alors même que notre dépense publique est déjà extrêmement élevée. Et nos prélèvements obligatoires sont aussi très élevés. Et donc finalement, on se retrouve avec un plan qui est assez mal emmanché, si vous me pardonnez l'expression, dans la mesure où le gouvernement pense avoir trouvé le Graal en essayant de supprimer des niches fiscales et en expliquant que ce ne sont pas des hausses de prélèvements obligatoires. Sauf que, évidemment, ce sont des hausses de prélèvements obligatoires. D'autre part, les niches fiscales, il y en a beaucoup qui sont utiles malgré tout. Et il est très difficile de supprimer des niches fiscales totalement improductives en récupérant beaucoup d'impôts. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire, hein. Il y a des dispositifs qui doivent être revus, mais croire qu'on va faire 30 milliards d'euros d'économies par an en touchant une niche fiscale, c'est complètement faux. Et en effet, il faudrait quand même réfléchir à notre dépense publique. Alors, c'est compliqué à réfléchir à la dépense publique. Hein. Augmenter les impôts, c'est facile. Faire des économies sur la dépense, c'est plus compliqué. Mais néanmoins, il me semble qu'on arrive au bout d'un système. C'est-à-dire que les retraites, la santé, tout ceci est formidable, mais ça coûte très, 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 très cher. Et donc, il faut y réfléchir, parce que sinon, cette perte du triple A, on l'aura dans... Alors, pas demain, bien évidemment, mais on l'aura dans 3, 6 ou 12 mois. Et là, ce serait absolument dramatique, parce que là, je peux vous dire que le plan d'austérité auquel on devrait faire face serait absolument sans commune mesure par rapport à ce qui se fait jour aujourd'hui.
Là, on parlerait de centaines de milliards.
Exactement, et très rapidement.
D'ailleurs, c'est ce que rappelait Xavier Fontanet, que nous avons reçu ici à plusieurs reprises, dans un article récent sur Le Figaro, où il rappelait et ciblait de façon très claire la sphère publique.
Oui.
En expliquant que c'est bien là-dessus. Et il donnait quelques chiffres, je vous rappelle. La sphère publique, c'est 1 000 milliards d'euros. 450 pour son fonctionnement, c'est-à-dire pour les fonctions centrales. 350 pour la santé et les retraites. 200 pour les régions. Il rappelait fort justement que Le Canada, qui avait été dans une situation à peu près identique il y a une dizaine d'années, a en 6 ans fait des économies dans sa sphère publique de l'ordre de 20% par an, ce qui rapportait à la situation française, donnerait une fourchette de l'ordre de 200 milliards sur 5 à 6 ans. Donc, le sujet, c'est bien évidemment la dépense publique.
Mais alors, évidemment, ça passe par des réformes. Et c'est là toute la difficulté de la baisse de la dépense publique. Je prends un exemple, l'organisation territoriale. On a une organisation territoriale en France qui est extrêmement compliquée. On a l'Europe, la nation, les régions, les départements, les communautés de communes et les communes. J'ajouterais l'État déconcentré avec les préfectures et les sous-préfectures.
C'est terrifiant.
On ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire qu'il faut faire fusionner des villes, il faut faire fusionner des régions, il faut éventuellement, je vais faire hurler certains de nos auditeurs, mais supprimer les sous-préfectures. Mais tout ça, il faudra le faire. Et ce qui m'inquiète, si vous voulez, Jean-Louis, c'est que en réalité, on le fera. Mais sous la contrainte, exactement. Et c'est pour ça que pour mon pays, pour l'avenir de mon pays, je préférais qu'on y réfléchisse dès maintenant et qu'on le fasse en bon ordre, plutôt qu'on soit obligé de le faire dans 5 ans, sous l'égide de l'Union européenne et surtout du FMI, qui sera à cette époque dirigé par un Chinois.
Alors on est un peu effrayé devant cette fausse pudeur des politiques, des deux côtés hein, d'ailleurs,
on ne va pas
cibler puisqu'ils sont exactement pareils. Et je rappellerai ce que disait Alain Gérard Slama, lui aussi dans un débat dans le Figaro. En économie comme en politique, le choix du mot juste est un art. Dans le contexte dans lequel se trouve la société française, refuser de parler de rigueur tient moins au fait de la peur de dire la vérité que de la nécessité de résister à la démagogie. Je crois qu'on est en plein dans cette logique-là. La sémantique ne peut pas cacher durablement la réalité des faits et on craint. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, que pour l'instant, alors certainement que le fait que nous sommes dans des circonstances permanentes électorales...
Ça n'arrange pas les choses.
Ça n'arrange pas les choses, mais ça aussi, c'est l'inquiétude, c'est que ça diffère les vraies mesures.
Mais sur cette question des cycles électoraux, je vais faire plusieurs remarques par rapport à ça. D'une part, maintenant l'opinion publique française, elle est relativement mature en matière d'économie. Et elle voit bien que ce n'est pas en taxant les sodas et les parcs d'attractions qu'on va résoudre nos problèmes de dette. Ça, c'est la première chose. Donc, je ne suis pas sûr qu'un langage de vérité sur ces sujets-là ne soit pas payant du point de vue électoral.
Tout à fait.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le fait que l'idée qui consiste à dire on va colmater les brèches jusqu'à l'élection présidentielle me paraît risquée. Parce que moi, je ne suis pas sûr qu'on ait les moyens de tenir jusqu'à l'élection présidentielle. C'est-à-dire jusqu'au mois de mai prochain, si on veut éviter une flambée des taux d'intérêt sur notre dette, voire une dégradation de notre notation. Et la troisième chose, alors là je suis peut-être un peu naïf, mais je pense qu'entre une place dans l'histoire et une élection, il vaut mieux choisir la première solution. Voilà.
Très belle remarque. Un dernier point peut-être avant de conclure notre entretien, qui est vraiment là un point de grande inquiétude, qui laisse totalement froid bien entendu l'opinion publique. Je dirais la démocratie d'opinion dans laquelle les politiques se sont engagés, c'est la situation des banques. Alors la situation des banques, je crois qu'il faut à un moment donné... bien préciser les choses. Il y a deux types de banques. Il y a celles qui vont être poursuivies par les organisations judiciaires américaines qui ont fait des choses tout à fait frauduleuses, mauvaises. Il y a, dans les chefs d'entreprise et dans les banquiers, il y a comme dans la société autant d'escrocs et de bons à rien qu'il y en a dans la société civile. Cela, on sait, c'est la crise de 2008. C'est regrettable, c'est identifié et ils vont payer puisque effectivement... Et puis, il y a les autres banques du reste du monde qui ont été les victimes collatérales de ces agissements. Parfois, elles ont mis un petit peu leur doigt dans le pot de miel, mais elles ont été d'abord des victimes. Et puis, il y a un troisième niveau, c'est celui des banques françaises. Or, les banques françaises, que je sache, à aujourd'hui, hormis les incidents de parcours, comme l'histoire de la Société Générale, mais ça peut arriver dans toutes les entreprises. Dans toute entreprise, il y a des entreprises, les usines sautent, explosent, c'est la vie. Et là, en matière de banque, c'est une escroquerie, en quelque sorte, évidemment, avec un volume très important. Et les banques françaises, donc, n'ont pas démérité. Or, ce qui vient de se passer, c'est une perte de capitalisation. Alors, on ne sait pas pourquoi, les rumeurs, la réalité, pas la réalité, d'une perte de capitalisation qui est absolument colossale. C'est-à-dire qu'en gros, les banques françaises ont perdu en capitalisation de l'ordre de 150 milliards. D'accord, depuis que ça a commencé, c'est-à-dire en gros un an. Et ça, c'est un risque considérable. Non seulement pour les épargnants ou les actionnaires individuels qui ont soutenu ces banques, mais tout simplement pour l'économie. Car en fait, pour faire du crédit, il faut des fonds propres. Il y a peu de temps, on m'expliquait que si on prend le cas de la Société Générale a 45 milliards de fonds propres, elle cote 15 milliards, manque 30 milliards. Donc ça veut dire deux choses, ou que la banque a effectivement des actifs qui ne valent pas un clou à hauteur de 30 milliards, ou alors le truc est parti complètement n'importe comment. Est-ce que vous avez une sensibilité particulière
oui,
sur ce truc-là ?
Je pense qu'il y a évidemment sans doute une surréaction cet été par rapport à la situation des banques. Les banques aujourd'hui, et c'est vrai des banques françaises, font face à deux contraintes. Première contrainte, bien évidemment, ce sont les dettes souveraines avec des dépréciations d'actifs qui ont été passées, qui à mon avis sont encore un peu insuffisantes. Je pense qu'on aura des dépréciations d'actifs un peu supérieures à ce qui était fait. Mais enfin bon, ça je dirais que tout ça est à peu près anticipé. Et puis vous avez ce qu'on appelle Bâle 3, hein, qui est une réglementation qui va entrer progressivement en vigueur, mais en réalité que les banques appliquent déjà, en particulier les banques cotées, et qui consiste à leur demander davantage de solvabilité, davantage de fonds propres, en effet, davantage de liquidités. Bon, et tout ceci coûte très cher. Mon sentiment, c'est pas du tout que les banques françaises sont en danger, mais c'est le sentiment, malgré tout, qu'on a changé de monde et qu'on avait un secteur bancaire qui était un secteur qui recrutait, qui était un secteur... Voilà. Et ça, en revanche, je pense que c'est un peu terminé. D'ailleurs, on le voit, parce que partout dans le monde, on a un phénomène assez nouveau que je trouve assez intéressant, et d'ailleurs qui est gênant, mais ce sont des suppressions d'emplois dans le secteur bancaire, ce qui est tout à fait nouveau. Donc, je ne suis pas catastrophiste sur les banques et pas de danger. On me pose parfois la question, est-ce qu'il faut retirer son argent des banques ? Tout ceci est bien évidemment un peu folklorique. Mais en revanche, je pense que l'âge d'or de la banque tel qu'on l'a connu dans les années 90 et dans les années 2000, ça, je pense que c'est clos.
D'ailleurs, les DRH de banque ont aussi leur coquetterie de sémantique et ils parlent de décrutement, qui est encore une ruse sémantique. Voilà, alors je crois qu'à travers tout ce que nous avons dit, et si on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, ça sera l'occasion d'un prochain rendez-vous, si on ajoute à la situation que l'on vient de décrire des finances et des dettes européenne et notamment française, le déséquilibre du commerce extérieur français qui
atteint des montants
considérables.
Mais tout ceci est lié. Hein.
Tout à fait.
Tout ceci est lié parce que...
Si les entreprises ne sont pas compétitives...
Voilà, c'est ça. Et l'une des clés pour l'avenir, y compris dans le cadre du remboursement de notre dette publique, c'est bien entendu d'avoir des entreprises, une industrie, des PME qui soient compétitives.
Je terminerai donc en vous donnant la définition du littré du mot rigueur. C'est intéressant quelquefois. Le mot rigueur s'applique à la situation de fragilité dans laquelle se situe la France, c'est-à-dire une dureté qui se régit avec une sévérité inflexible. La rigueur n'est pas simplement une notion morale, c'est une notion scientifique. Elle caractérise un raisonnement auquel l'esprit ne peut résister. Alors la résistance, elle sera peut-être à travers la rigueur, c'est ce que nous verrons dans un prochain avenir. En tout cas Nicolas, merci
Jean-Louis.
Au Cercle Turgot et à très bientôt pour un prochain rendez-vous.